Le journal du classique avec Laure Maison depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bonsoir à tous et bienvenue à Marseille où Radio Classique s'est délocalisée aujourd'hui afin de vous faire profiter de cet autre volet du Festival de Pâques que l'on a déjà eu l'occasion d'évoquer cette semaine. Un festival qui se déploie hors d'Aix-en-Provence pour un autre public, un public qui ne vient pas forcément habituellement au concert. C'est la dimension solidaire du festival, musique en partage. Alors ce soir, nous sommes dans un lieu assez extraordinaire, un lieu atypique. C'est une ancienne usine devenue centre de création, la Friche de la Belle de Mai, et nous sommes en excellente compagnie avec les deux directeurs du festival, Dominique Bluzet et Renaud Capuçon, et avec le pianiste David Frey. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Laure.
Alors peut-être pour commencer, Dominique Bluzet, est-ce que vous pourriez nous présenter ce lieu que vous connaissez bien, je crois, qui avait à la base une vocation industrielle, mais qui depuis quelques années, quelques décennies même, est devenu un lieu de création, un lieu d'art et de rencontre.
Au départ, c'est une usine de cigarettes, une usine de la CEITA, et c'est l'endroit où a été créé le premier syndicat de femmes au monde en 1865, je crois. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait avec la Comédie Française un spectacle ici qui traitait de ce sujet. C'est une usine qui employait jusqu'à 2500 personnes. Elle a fermé du jour au lendemain. Ça a paupérisé entièrement le quartier. Ce quartier, c'est un des quartiers les plus pauvres d'Europe aujourd'hui. Et cette friche qui a été voulue par Robert Vigouroux en 1990-92 est devenue un lieu où il y a des ateliers d'art consacrés au théâtre, à la danse, à la peinture, des plasticiens, etc., etc., un lieu d'exposition, et a été construit à l'initiative de Frédéric Mitterrand, quand il était ministre, une grande salle de spectacle à l'intérieur, qui fait 400 places, qui a un grand plateau sur lequel on fait régulièrement des spectacles, et qui va accueillir aujourd'hui ce concert, ouais. Avec un public qui n'a pas l'habitude de venir, c'est un public du quartier qui n'a pas l'habitude de venir assister à des concerts.
Alors justement, vous allez jouer, Renaud Capuçon et David Frey, tout à l'heure dans cette salle, ici à la Friche de la Belle de Mai. Que vous inspire ce lieu? Vous l'avez arpenté, vous l'avez visité tout à l'heure, Renaud.
C'est très étonnant. D'abord, l'étendue du lieu. Je crois qu'il y a une terrasse de 8000 mètres carrés qui fait quand même rêver. C'est assez incroyable. C'est un lieu apparemment de vie et tout le quartier a pris possession de ce lieu. Donc nous, ça nous inspire beaucoup. On est très heureux aussi de jouer dans une salle où il n'y a pas eu beaucoup de musique classique, je crois.
Non.
Voilà. Donc, on est en train de réfléchir à comment on peut revenir régulièrement ici, parce que je pense que c'est important de non pas désacraliser la musique, mais de l'emmener dans des lieux qui ne sont pas forcément consacrés ou des lieux où elle n'est pas forcément mise en premier lieu, je dirais. Voilà. Et puis j'ai appris aussi que c'est Patrick Bouchain qui a fait cette salle, donc ça me touche beaucoup parce que c'est un ami, un de nos amis, à Dominique et à moi. Et voilà, et on se réjouit beaucoup.
Il a fait la Grande Cholac, ouais, à Évian, qui est un lieu cher au cœur de Renaud. Il a fait le lieu unique à Nantes. Moi, j'ai été son adjoint pendant des années, il y a 30 ans. Et c'est un architecte de lieux culturels. Voilà, on a une pensée tous les trois pour lui ce soir, parce qu'il a marqué de son empreinte ce territoire.
Eh bien, on le salue. Alors, David Frey, qu'est-ce que cela fait que de jouer dans un lieu dont la vocation première n'est donc pas le concert, qui n'a pas été conçu pour la musique? Quelle difficulté, mais quel plaisir aussi.
Mais à vrai dire, je suis même surpris qu'il y ait si peu de concerts dans cette salle-là, parce que on a trouvé avec Renaud que la salle sonnait étonnamment bien. Je pense que c'est une expérience vraisemblablement à reproduire, je pense, oui.
C'est un concert gratuit pour le public du quartier. C'est toujours excitant, j'imagine, de rencontrer un nouveau public. Et en même temps, ce public, il faut le conquérir. Il n'a peut-être pas les codes, il ne vous connaît peut-être pas si bien, il ne maîtrise peut-être pas votre univers. Qu'est-ce que cela représente comme enjeu pour un interprète?
Je pense qu'il y a plein de gens, d'abord, qui ne nous connaissent pas. Enfin, pardon David, mais ça me paraît évident qu'ils ne nous connaissent pas, mais qui connaissent peut-être pas ni Beethoven ni Schubert. Je pense que c'est ça qui est intéressant, peut-être certains d'entre eux n'ont jamais entendu en live une œuvre de Schubert ou de Beethoven. Donc il faut se remettre dans ce contexte et se dire la chance qu'ils ont de découvrir pour la première fois. Moi, j'aimerais, quand je vois des jeunes musiciens qui jouent un trio de Schubert ou un quatuor de Beethoven pour la première fois, j'aimerais être à leur place pour revivre cette première fois. Donc S'il y a un public ce soir qui écoute ces œuvres pour la première fois, c'est une chance incroyable parce que la fraîcheur de cette découverte de ces œuvres incroyables, on joue la sonate à Kreutzer de Beethoven, qui est peut-être une des plus belles œuvres de musique de chambre écrite pour violon et piano, et puis un rondo de Schubert. Donc, dans ce genre d'endroit où on sait qu'un public novice vient, je me sens une grande responsabilité, un peu comme quand on joue une œuvre pour la première fois, parce qu'elle va être entendue pour la première fois, et donc, comment dire, le fait qu'on joue le mieux possible est finalement beaucoup plus important dans un cas comme ça que dans un public qui a déjà entendu 100 fois l'œuvre.
Et vous-même, David, comment vous vivez ce genre de concert ?
Moi, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, je trouve aussi que la musique classique a une image qui n'est pas juste, en fait. C'est-à-dire que pour peu que l'on passe la porte d'une salle de musique classique, je pense que tout est possible et que de nombreuses surprises, j'en ai été témoin, Renaud aussi, je suis persuadé, Dominique aussi, de nombreuses surprises peuvent advenir. Mais encore faut-il avoir effectivement cette possibilité, cette curiosité de passer la porte. Mais une fois que la porte est passée, là, effectivement, je pense que tous les émerveillements sont possibles et nous, on a vraiment l'expérience souvent de gens qui ne pensaient pas que c'était pour eux et qui finalement découvrent cette musique-là. Et j'espère que ça va être le cas ce soir et que on va réveiller certaines âmes et certaines consciences avec ces deux œuvres-là.
Voilà, avec la musique de Beethoven, avec la musique de Schubert, et on va profiter de la musique de Bach pendant quelques minutes tout de suite. De la sonate pour violon et clavier numéro 4 de Jean-Sébastien Bach par Renaud Capuçon et David Frey. Renaud Capuçon et David Frey qui sont avec nous ce soir sur Radio Classique en compagnie de Dominique Bluzet dans notre studio délocalisé à Marseille, dans ce lieu incroyable, cette friche de la Belle de Mai, où Renaud Capuçon et David Frey joueront tout à l'heure un concert dont on profitera ensemble sur Radio Classique. Un concert qui s'inscrit dans le cadre de ce volet solidaire, musique en partage du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Cette dimension solidaire, elle est très importante chez les musiciens depuis toujours. Mais est-ce que depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis quelques événements, depuis le Covid, depuis les événements peut-être que l'on vit aujourd'hui, les bouleversements du monde, cette dimension solidaire, elle est devenue encore plus importante, plus essentielle pour un musicien aujourd'hui, Renaud ?
Je pense qu'on en parle plus aujourd'hui, clairement. Mais c'est une chose que, en tout cas avec Dominique ici à Aix, on a fait depuis le début. On a commencé vraiment, on l'a développé au fur et à mesure des années. Et pour ma part, je me souviens avoir donné, quand j'étais très très jeune, à Chambéry, j'avais fait un concert pour les sans-abri, je me souviens, quand j'avais 18 ans, et j'avais joué pour des sans-abri. C'était pas un concert au profit, mais c'était très étrange parce qu'il y avait eu une centaine de sans-abri qui étaient venus dans une salle à Chambéry. Donc, pour moi, c'est pas nouveau de faire ces choses-là. Par contre, je pense que c'est bien que ça se développe de façon beaucoup plus large, et que les musiciens, de façon générale, soient concernés par ça et de le faire pour des vraies raisons. Ça va avec le sens de la musique, parce que nous, on est quoi? On est des interprètes, on n'est pas des compositeurs, on est là pour partager la musique avec le plus grand nombre. Et quand on joue, par exemple, pour des jeunes en situation de handicap, ou dans des maisons pour des personnes âgées, ou pour des gens qui sont handicapés, pour des gens qui ont des problèmes, la musique prend un sens insensé. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cette mission de musicien, elle est exprimée à 300%. Dans ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que quand on joue dans une salle de concert tout à fait normale, dans un cycle, dans une grande ville, on a moins de plaisir. Mais il y a une forme d'authenticité et de générosité via la musique qui s'inscrit naturellement.
Voilà, qui se traduit à travers ces concerts solidaires, à travers des événements solidaires. Je pense à votre festival, David Frey, l'offrande musicale que vous avez créée il y a quelques années pour le public handicapé, pour tous les publics, mais pour mettre en avant aussi votre solidarité avec le handicap.
Oui, Renaud est bien au courant de ça d'ailleurs, puisqu'il a porté le festival sur les fonts baptismaux en ma compagnie.
Et je m'en souviens très bien.
Et vous étiez là alors d'ailleurs. Oui, effectivement. Moi, c'est forcément, je pense que peut-être aussi un peu pour ça qu'il a pensé à moi d'ailleurs pour ce concert. Allez savoir, Renaud. Il sait que c'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur. Effectivement, moi, je pense qu'on a vécu effectivement. Bon, on n'a pas trop envie de s'en rappeler, mais il faut quand même parfois ne pas l'oublier. Une période où on avait l'impression de ne pas être très utile, où on nous a dit qu'on n'était pas forcément nécessaire ou indispensable. Et en fait, je pense que quand on fait ce genre de concert, on a parfois justement l'impression d'être un peu utile, un peu plus connecté à ce qui se passe dans la société. Et moi, effectivement, le sujet du handicap en particulier, c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce que je pense que c'est dans une époque qui valorise beaucoup les minorités, et c'est d'ailleurs tout à fait louable, je trouve que cette minorité-là, qui est pourtant une minorité nombreuse, on peut dire, est trop souvent passée un peu en dessous des radars. Voilà.
Et puis ce sont des émotions, l'émotion de la musique que vous transmettez à ce public. Des émotions différentes, Dominique Bluzet, comment les décrire, celles que vous percevez dans le cadre de concerts solidaires?
Ben, il y a la musique qu'on envoie à des gens, mais il y a aussi celle qu'on reçoit en retour. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'enrichissement personnel que ça procure aux artistes, de se dire tout d'un coup, on a donné, mais qu'est-ce qu'on reçoit ? Avec Renaud, depuis quelque temps, on est persuadé qu'il faut aller de plus en plus vers ça. Que à terme, ce festival aura une large partie tournée vers cette solidarité et ce partage, parce que d'abord c'est nécessaire pour réinventer la musique, pour réinventer le concert, mais aussi parce que ça rend profondément heureux les artistes, parce que c'est nécessaire dans la société, et parce que la musique n'est pas forcément accessible à tous, et qu'une des missions des musiciens, c'est, et des artistes en général, c'est comment la rendre accessible à tous. Nous, on a eu la chance avec Renaud d'avoir un grand mécène, le CIC, qui est venu nous dire un jour, on va vous donner les moyens de travailler, d'exister, d'aller au bout de vos rêves, comment en allant au bout de ses rêves, on les partage avec d'autres gens. C'est pour Renaud et moi un choix quotidien de se dire comment est-ce qu'on va continuer à développer ça en direction des jeunes, dans des territoires éloignés, dans des endroits où la musique n'a pas accès, les hôpitaux, etc., etc. Et je crois que ce festival sera un festival total quand on aura réussi justement à être à la fois tout autant capable de transmettre des émotions que de les recevoir en retour, parce que ce qu'on aura fait aura été œuvre utile pour la société.
Et est-ce qu'il y a des compositeurs, David Frey, dont la musique, quelque part, a un rôle encore plus apaisant, encore plus consolateur, une sorte d'antidote à la solitude, à la souffrance? Est-ce que s'il fallait citer un ou deux compositeurs, lequel vous viendrait à l'esprit?
Ça, c'est une question difficile, parce que je pense que le propre des génies, c'est d'être universel. Donc, toutes les œuvres qu'on joue, en général, on a la chance que ce soit des chefs-d'œuvre écrits par des génies. Le mot, là, n'est pas galvaudé. Mmh. Donc, effectivement, pour moi, c'est difficile de choisir un compositeur en particulier. C'est vrai que là, on va jouer Beethoven, on peut quand même dire que Beethoven est un compositeur qui a eu dans son langage, dans sa manière d'écrire de la musique, peut-être à la fois un rapport au combat, hein, parce que 700 Attack Kreuzer, c'est une forme de combat amical, je vous rassure, et on se retrouve à la fin avec Renaud, mais en tout cas, il y a une forme de combat dans ce langage-là, et en même temps, il y a des valeurs universelles, universalistes, on pourrait dire, qui sont portées par l'œuvre de Beethoven, très fort aussi. Donc Beethoven, effectivement, de ce point de vue-là, je trouve, est un compositeur important. Mais moi, j'aurais du mal à faire l'impasse sur Bach ou Schubert également. Je pense que pour un public de non-connaisseurs, c'est pas forcément la question de quel compositeur on va leur jouer, c'est plutôt quelles œuvres peut-être. Parce que dans chaque corpus, il y a des œuvres qui sont peut-être plus accessibles que d'autres.
On va vous libérer, David Trey, parce que je crois que vous devez aller répéter. Et on va se quitter avec quelques notes de Schubert, parce que moi j'ai pensé à Schubert. Le troisième des moments musicaux Deutsch 780 de Franz Schubert sous les doigts de David Frey. David Frey que l'on écoutera tout à l'heure en concert avec Renaud Capuçon ici à la Friche de la Belle de Mai à Marseille où nous avons installé notre studio pour ce journal du classique, toujours en compagnie de Renaud Capuçon et de Dominique Bluzet, les deux directeurs du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. On parlait de la musique, du rôle de la musique consolatrice, la musique qui apaise les peines, la douleur, la solitude. La musique de Schubert, c'est la musique du partage, Renaud Capuçon. C'est une musique que vous aimez, en tout cas, partager avec,
oui,
avec d'autres artistes.
Oui, c'est la Schubertiade, c'est ça. C'est des amis qui se retrouvent pour jouer de la musique pour d'autres. Et cette année, la carte blanche qui m'est consacrée sera autour de Schubert, avec deux des œuvres peut-être les plus connues de ce compositeur, en tout cas pour la musique de chambre, le trio opus 100, le deuxième trio, et puis le quintet de la truite. Et que je jouerai aussi avec quatre très jeunes musiciens. Parce que Mao Fujita, le pianiste japonais génial, doit avoir 25 ans. L'altiste Paul Zantara a 20 ans. Julia Hagen doit avoir 23 ans. Et Lorraine Campe, peut-être toute petite trentaine. Donc le vieux dans l'histoire, ça sera moi. Mais tout ça pour dire que ce festival en partage, il est né aussi dès la première année du festival. Parce qu'on a commencé à faire Génération at Aix, qui étaient ces jeunes avec un senior, enfin quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience, et on a voulu tout de suite avec Dominique qu'il y ait cette émulation entre les générations. Et puis une chose qui m'avait étonné tout de suite, parce que vous faisiez ça déjà dans la saison du Grand Théâtre, c'est les concerts qui sont retransmis. Donc nous, on est sur scène au Grand Théâtre et on nous demande l'autorisation que ça soit filmé pour être retransmis dans des chambres d'hôpital, dans des endroits où les gens peuvent pas accéder. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui ont été faites dès le début. Et je me souviens aussi de ce concert que j'ai donné pour la première fois à la maison de Gardanne, qui est cette maison de un lieu de fin de vie où je vais depuis chaque année, et c'est un des moments les plus forts de ma saison. Je vais jouer pour des gens qui sont là en attente de la mort et qui écoutent de la musique, et donc nous qui jouons là, on a une urgence à leur donner le mieux, parce qu'on sait que c'est peut-être une des dernières choses qu'ils vont entendre. Et en même temps, il y a beaucoup de joie dans ces concerts. C'est très, très étrange. Donc, toutes ces choses, ça rejoint ce que tu disais, Dominique, tout à l'heure, sur le fait que nous, les interprètes, on reçoit énormément de ces actions. Et je pense que ça se ressent aussi sur le public.
Alors Dominique Bluzet, vous développez toutes ces actions solidaires qui ont commencé depuis le début du festival et qui se déroulent également tout au long de la saison du Grand Théâtre de Provence. Quel bilan pourriez-vous tirer de ces nouveaux développements? Je pense à ces concerts pour les bébés qui ont eu un énorme succès que vous avez initié cette année. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment avez-vous vécu ces concerts durant cette édition du festival?
En fait, c'est une prise de conscience progressive depuis le Covid. On s'est retrouvé avec Renaud en 2021 à faire une édition du festival où il n'y avait que nous deux dans la salle. On a eu devant nous, rien que pour nous deux, Martha Argerich et Daniel Barenboim. Et à côté, il y avait Maria Joao Pires. Et on se disait que c'était véhiculé par les ondes. Et donc, on avait le sentiment à ce moment-là de faire quelque chose de différent puisqu'on avait touché 1,5 million de personnes.
Il faut préciser, c'est une édition qui avait dû être annulée au public, mais qu'on avait décidé
de
maintenir en numérique. Donc c'était filmé et retransmis.
Classique.
Exactement. Et donc, ce qui a été formidable pour nous à ce moment-là, c'est de se dire, bon, ben, c'est très bien, on dit aux gens qu'il faut aller au théâtre, mais quand il n'y a pas de théâtre, comment on fait? Et au-delà de ça, de se dire, ce festival, il doit toucher les gens qui viennent dans la salle ressentir une émotion particulière, mais à côté de ça, il y a des tas de gens qui peuvent ressentir cette émotion si on leur apporte chez eux, parce que d'eux-mêmes, ils ne feront pas forcément le pas. Et puis, on a créé Écho, ce qu'on fait dans les hôpitaux. Écho, ça veut dire le son en grec ancien. C'est-à-dire qu'on a équipé des hôpitaux, des centres de gériatrie, des maisons de soins palliatifs. On l'a fait à nos frais, avec des salles de musique, ou alors on se raccorde au circuit de télévision interne des hôpitaux. Et pour vous donner une idée, pendant le festival, on touche à peu près 30-35 000 personnes payants qui viennent dans la salle. Mais à côté, c'est plus de 10 ou 12 000 personnes qu'on va aller toucher de cette manière-là. Et je crois qu'avec le temps, on a ressenti tous les deux le besoin artistique, philosophique et en tant que citoyen de se dire comment est-ce que finalement ce festival, on peut pas faire plus de concerts, on est au maximum 17 jours, etc. Mais il y a tellement de gens qu'on peut toucher de façon différente. Donc soyons créatifs, soyons inventifs. On a eu la chance d'être suivis par ce mécène et par d'autres, par une femme extraordinaire qui s'appelle Aline Fauriel-Destezay qui nous a beaucoup aidés aussi. Et alors le summum, ça a été cette année, on fait des concerts en landau, c'est-à-dire qu'il y a on fait 3 sessions tous les matins, 10h, 11h, midi. Les parents viennent avec des bébés qui sont en poussette, et là, avec un garçon qui s'appelle Thierry Weber, il y a un orchestre, et il y a une centaine d'enfants et des parents qui sont autour. L'orchestre est au milieu des enfants, et on leur explique comment ça fonctionne la musique. Et ce qui est étonnant, c'est de voir les enfants écouter la musique, puis ensuite, ils veulent toucher les instruments. Et habituer l'oreille des enfants qui ont 1 an comme ça, c'est formidable. On va continuer après avec Renaud pour que finalement, entre 1 an et 24 ans, on soit capable d'offrir un rapport à la musique à toute une génération à travers des modules de 1 an à 14 ans avec ces concerts interactifs, participatifs, dont le but est d'être une sorte d'école du spectateur. Puis de 14 à 18 ans, comment est-ce que éventuellement on peut appréhender la musique si on veut la jouer, mais pas forcément pour en être un musicien. Et puis cette chose que Renaud a voulu depuis le départ, qui était Génération Ad-Ex, comment est-ce qu'on accompagne des jeunes solistes sur un plateau avec un mentor. Et ça a un vrai sens en tant que musicien, en tant que directeur de théâtre pour nous deux, de se dire on fait œuvre utile pour la société.
Voilà, et puis vous jouez donc ce soir ici à la Friche de la Belle de Mai. Avant de se quitter, Renaud, je voulais revenir sur un autre concert. Alors, ce n'est pas dans le cadre du volet musique en partage, mais un concert qui, j'imagine, a été un moment fort pour vous et pour le public. C'était il y a quelques jours au Grand Théâtre de Provence. Vous avez joué avec votre orchestre, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, que vous avez confié à un autre chef d'orchestre, Tougen Sokiev. Et vous avez joué le deuxième concerto de Prokofiev. C'était la première fois que vous donniez ce concerto. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est une œuvre, en plus, assez terrible, exigeante, j'imagine.
Oui, alors au-delà de ça, il y avait beaucoup d'émotions parce que c'était joué dans un festival qu'on a créé avec Dominique, avec l'orchestre dont j'ai la charge, et confié à un de mes amis chefs d'orchestre pour qui j'ai vraiment une amitié et un respect musical incroyable. On joue avec Sokiev depuis plus de 20 ans. Donc c'était beaucoup d'émotions partagées, et en plus de jouer un concerto que j'abordais pour la première fois. Donc j'avais finalement cette découverte dont je parlais au début de ces jeunes musiciens qui jouent pour la première fois. Et c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir découvrir, malgré mon âge avancé, encore une sublime page de Prokofiev. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'était un moment particulier que j'oublierai pas.
Et il y avait dans la salle un violoniste qu'il admire beaucoup, et le challenge était aussi très important.
La première personne que j'ai vue en sortant de scène, c'est Gil Shaham, qui est un des violonistes que je préfère au monde, et donc c'était formidable qu'il soit là, mais ça m'a mis une bonne pression.
On va se quitter avec quelques notes de Schubert, de la truite de Schubert que vous jouerez ce dimanche. Merci beaucoup Dominique Bluzet et Renaud Capuçon. Renaud Capuçon, on vous retrouve tout à l'heure en concert avec David Frey. Le troisième mouvement du quintet La Truite de Schubert, avec ici Franck Bralet, Renaud et Gauthier Capuçon, Gérard Cosset et Aloïs Poche, une musique qui résonnera dimanche pour le concert de clôture au Grand Théâtre de Provence, concert de clôture du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, que vous pourrez revivre sur Radio Classique. D'ici là, d'autres moments à partager sur notre antenne. Demain soir, la Missa Solemnis de Beethoven, sous la direction de Jérémy Rorer. Et puis, dans quelques petits instants, ce concert ici à la Friche de la Belle de Mai. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Merci au public qui est venu nous tenir compagnie. Au public marseillais que l'on salue. C'est un vrai plaisir de se délocaliser à Marseille. Je vous retrouve donc dans un tout petit instant pour vous présenter ce concert ici à la Friche de la Belle de Mai.